Chapitre 28. Le jour critique. Première partie. Il y a des jours critiques dans la vie de l'homme et de l'humanité, sans parler seulement des journées de marathon, de Cannes ou de Lépante, dont les résultats divers ont eu une si haute influence sur les destinées politiques et sociales du monde. Il est probable que Christophe Colomb, dont le génie avait deviné et promis à la Terre un monde de plus, s'est toujours souvenu de la journée et même de l'instant décisif où sa tête puissante avait conçu ce projet grandiose qui devait enrichir sa patrie et donner à son génie la place qu'il méritait d'occuper en ce monde. Chaque homme, dans une sphère plus ou moins étendue, a eu son jour critique, moment choisi et décisif pour la vie entière, jour où la Providence a changé notre position ou le genre de nos relations avec nos semblables, jour de grâce où l'esprit victorieux a dominé la chair. Toute âme en ce monde a eu son jour, comme Jérusalem. Fabiola arrivait à cet instant de crise. Tout avait contribué à la conduire à ce but de sa vie, l'empereur comme l'esclave, son père et ses hôtes, les bons et les pauvres. Tout lui avait parlé tour à tour, la vie et la mort, la joie et la peine, la science et la simplicité, le silence et la parole, tous ces agents divers, assaillant son esprit par des voies opposées et dirigeant cette âme noble et généreuse, malgré sa violence et sa hauteur, vers un but unique, comme la brise et le gouvernail qui, luttant l'un avec l'autre, arrivent à conduire le navire à un but unique et bien déterminé. Qui déterminera la voie de ces forces opposées? L'esprit de l'homme, la sagesse et la philosophie ne sauraient le décider. Nous avons raconté les événements du 20 janvier. Que le lecteur regarde sur son calendrier almanach quel est le saint du jour suivant, et il verra que nous touchons dans notre récit à une époque décisive. En sortant de l'audience impériale, Fabiola se rendit dans les appartements d'Irène, qu'elle trouva dans la désolation et le chagrin. La jeune fille partageait la peine de ses hôtes, mais elle voyait et ressentait qu'entre leur affliction et la sienne était une grande différence. Elle n'était pas abattue comme Fabiola, un éclair d'espérance traversait leur douleur, et les nuages de leur front s'éclairaient quelquefois pour faire place à une expression d'allégresse ineffable. La douleur de la jeune patricienne, au contraire, était morne et froide. Elle paraissait plongée dans une obscurité pesante et infranchissable, comme si elle venait de faire une perte irréparable et sans espoir. Ses élans vers le christianisme, qui s'associaient dans son esprit à tout ce qu'il y avait d'aimable et d'intelligent, semblaient disparus. Celui qui devait lui enseigner cette science nouvelle était parti. Quand la foule eut quitté le palais, elle prit un congé affectueux de la veuve et de ses filles. Mais sans savoir pourquoi, elle ne pouvait aimer la jeune fille restée païenne comme sa douce sœur. Revenue dans son palais, Fabiola s'assit solitaire et essaya de lire. Elle prit les uns après les autres ses ouvrages favoris, sur la mort, la force d'âme, l'amitié ou la vertu, mais tous lui parurent insipides, fades et faux. Sa mélancolie augmenta alors et elle resta plongée jusqu'au soir dans une sorte de rêverie maladive dont elle fut troublée seulement lorsqu'on lui remit une lettre. L'esclave grec Gréca, qui, après avoir apporté le message, resta dans un coin retiré de la salle, fut effrayé et intrigué à la fois de ce qu'elle vit. À peine Fabiola eut-elle jeté un regard sur le billet, qu'elle se leva hors d'elle-même, et, l'air égaré, elle pressa de ses deux mains ses cheveux sur ses tempes, et ce mouvement convulsif les fit dérouler en désordre sur ses épaules. Puis elle s'arrêta un moment, leva ses yeux qui avaient pris une expression de fixité étrange, et se laissa retomber lourdement sur sa chaise en poussant un sombre gémissement. Elle resta ainsi silencieuse pendant quelques instants, tenant la lettre de ses deux mains, les bras étendus et semblant presque évanouie. « Qui a remis cette lettre ? » demanda-t-elle, enfin revenue à elle. « Un soldat, madame. Dis-lui de venir ici. » Tandis que l'esclave exécutait cet ordre, Fabiola se remit un peu et releva ses cheveux épars. Dès que le soldat entra, le court dialogue suivant s'engagea entre eux. « D'où venez-vous ? » « Je suis de garde à la prison tullienne. »« Qui vous a donné ce message ? » La noble Agnès elle-même. Et pour quel motif la pauvre enfant est-elle en prison ? Un homme nommé Fulvius l'a dénoncée comme chrétienne. Il n'y a pas d'autre motif ? Aucun autre motif, j'en suis bien sûr. Alors l'affaire sera bientôt vidée. Je puis témoigner du contraire. Dites-lui que je vais venir et prenez ceci pour votre peine. Le soldat se retira et Fabiola resta seule. Quand il fallait agir, son esprit énergique et concentré savait dominer sa faiblesse féminine, qui ensuite reprenait tous ses droits. Elle s'enveloppa soigneusement et se rendit seule à la prison. On la conduisit à la cellule séparée qu'Agnès avait obtenue en considération de son rang et moyennant aussi les largesses de ses parents. « Qu'est-ce que tout cela signifie, Agnès ?» demanda vivement Fabiola après avoir tendrement embrassé sa jeune parente. « Je suis arrêtée depuis quelques heures et l'on m'a conduite ici. Et c'est ce Fulvius, cet insensé et ce monstre qui est assez fou pour formuler contre vous une accusation qui sera confondue dans 5 minutes. Je vais me rendre moi-même chez Tertullus et en un instant j'aurai réfuté cette calomnie infâme. » « De quelle calomnie voulez-vous parler, chérie ? Il a dit que vous étiez chrétienne. »« Et je le suis, Dieu merci !» répondit Agnès, traçant sur elle le signe de la croix. Cette nouvelle ne frappa pas Fabiola comme un coup de foudre, et elle ne fut ni surprise, ni troublée, ni même étonnée. La mort de Sébastien avait ôté à cette réponse d'Agnès tout ce qu'elle aurait eu auparavant d'amère et de pénible pour Fabiola. La foi lui était apparue dans celle qu'elle considérait comme le type le plus accompli des mâles vertus. Elle n'était pas surprise de la rencontrer dans celle qu'elle aimait comme le modèle parfait des vertus féminines. La simple grandeur de l'enfant, si admirable, son innocence sans artifice, sa bonté qui tendait à tous la main, frappait tellement Fabiola qu'elle fut au moment d'adorer la douce et charmante créature qu'elle aimait si tendrement. La difficulté du problème approchait de sa solution. Fabiola savait maintenant que ces deux êtres si parfaits n'avaient point grandi au hasard comme des plantes rares dont le vent du ciel envoie la semence où bon lui plaît, mais que la même sève les avait nourries et fortifiées. Elle courba la tête avec respect devant l'enfant et lui demanda « Depuis combien de temps êtes-vous chrétienne ?»«
Je l'ai toujours été, chère Fabiola. » Et comme nous le disons, j'ai sucé la foi avec le lait de ma mère.
Et pourquoi m'avoir caché votre religion ?
Parce que je voyais vos préjugés violents contre nous. Vous nous détestiez comme les sectateurs des plus ridicules superstitions. Vous croyiez que nous nous livrions aux plus odieuses abominations. Je m'apercevais que vous nous condamniez comme des êtres stupides, ignorants, ne connaissant aucune philosophie et privés de raison. Vous n'auriez pas voulu entendre un mot de défense sur nous, et le seul objet de haine de votre esprit généreux était le nom chrétien.
C'est vrai, chère Agnès, et cependant, si j'avais su que vous ou Sébastien vous étiez des chrétiens, je n'aurais pu haïr leur nom. En vous, tout m'aurait paru aimable. Vous pensez ainsi à présent, Fabiola, mais vous ne connaissez pas le fond du préjugé universel et l'influence des faussetés sans cesse répétées. Combien de nobles esprits, de belles intelligences, de grands cœurs, ils ont enchaînés en les amenant à croire que nous sommes les plus infâmes de tous les êtres humains.
Chère Agnès, n'est-ce pas égoïste à moi de discuter avec vous dans la position où vous vous trouvez ? Sans doute vous allez forcer Fulvius à prouver que vous êtes chrétienne.
Oh non, chère Fabiola, je l'ai déjà déclaré et demain, dans la matinée, je renouvellerai publiquement cette confession.
Dans la matinée, demain, répéta Fabiola, stupéfaite d'une action si immédiate.
Oui, demain, pour prévenir les troubles et les clameurs à mon sujet, bien que peu de personnes fassent attention à moi, on m'interrogera de bonne heure et on procédera ensuite sommairement.
Cher ami, n'est-ce pas là une bonne nouvelle ? Demanda vivement Agnès, prenant les mains de sa cousine entre les siennes. Puis, continuant, avec ce regard illuminé que nous lui connaissons, elle ajouta « Je vois ce que depuis si longtemps je désirais ardemment. Ce que j'espérais va être accompli. Il me semble que déjà je suis unie dans le ciel à celui que sur la terre j'ai aimé avec tant de tendresse. Oh, n'est-il pas beau, Fabiola? Les anges eux-mêmes qui l'entourent pâlissent à côté de lui. Que son sourire est doux, que son regard est suave, que l'expression de son visage est tendre. Voyez-vous cette douce et très gracieuse dame qui l'accompagne partout, notre reine et notre maîtresse, qui n'aime que lui seul? Elle m'appelle doucement pour me joindre à sa suite. Me voici, me voici. Ils sont partis, Fabiola, mais demain matin, ils reviendront me prendre et nous ne nous séparerons plus. Fabiola sentait son cœur gonfler comme s'il était entré quelque chose de nouveau. Qu'était-ce? Elle ne le savait pas encore, mais il lui semblait qu'elle ressentait une émotion surnaturelle. Elle n'avait pas encore entendu prononcer le nom de la grâce. Agnès voyait le changement favorable qui s'opérait dans l'esprit de son amie et remerciait Dieu dans le fond de son cœur. Elle demanda à sa cousine de revenir la voir le lendemain avant l'aube afin de lui dire un suprême adieu. En ce moment, une délibération avait lieu dans la maison du préfet entre ce digne magistrat et son digne fils. Le lecteur va assister à ce conseil de famille. Certainement, dit le magistrat, si la vieille sorcière a raison sur un point, elle doit aussi avoir raison sur l'autre. Je sais par expérience que la richesse est un puissant levier pour vaincre les résistances humaines. Et vous avouerez aussi, répondit Corvinus, que parmi tous les prétendants à la main de Fabiola, il n'en est pas un qui ne puisse être justement appelé un coureur de dot. Vous compris, mon cher Corvinus. Oui, jusqu'à présent. Mais les choses changeront si, avec ma personne, je puis offrir à Fabiola les immenses richesses de la noble Agnès. Il me semble qu'un procédé si délicat gagnera aisément son esprit, qu'on dit généreuse et élevée. Lui donnant ses trésors sans aucune condition, puis vous offrant ensuite à elle, vous la mettrez en demeure, ou de vous accepter pour époux, ou de vous rendre la fortune. Admirable, mon père, je n'avais pas encore saisi cette seconde alternative. Mais pensez-vous qu'il ne soit pas possible de réaliser le second projet sans briguer la main de Fabiola? Non, je ne le pense pas. Fulvius, sans doute, demandera une part, et il est probable que l'empereur déclarera qu'il veut tout garder pour lui seul, car il déteste Fulvius. Mais si je propose un plan plus régulier et plus raisonnable, en donnant les propriétés d'Agnès à sa plus proche parente, qui adore les dieux, car cette Fabiola les adore, n'est-ce pas? Certainement, mon père. Eh bien, je pense que l'empereur adoptera mon plan, car je suis sûr que je ne puis attendre de lui un don libre. Une telle proposition venue d'un juge le mettrait en fureur. Comment donc vous arrangerez-vous? J'aurai un rescrit impérial préparé pendant la nuit et tout prêt à signer. Immédiatement après l'exécution, je me rendrai au palais, j'exagérerai l'impopularité qu'elle va soulever et je laisserai tout retomber sur Fulvius. Puis je démontrerai à l'empereur qu'il accroîtra sa popularité et sa grandeur en donnant cet immense héritage à la plus proche parente de la personne à laquelle on le confisque. Il est aussi vain que cruel et rapace. Un de ses vices vaincra peut-être l'autre dans la lutte. On ne pouvait rien trouver de mieux, mon cher père. Mon esprit est délivré de soucis et je me reposerai en paix. La journée de demain sera une époque décisive et critique pour moi. Tout mon avenir dépend de l'acceptation ou du rejet de ma proposition. Je désire seulement, ajouta Tertullus en se levant, voir cette dame incomparable et sonder les profondeurs de sa philosophie avant que notre dernière affaire ne soit terminée. Ne craignez rien, mon père, elle est digne de devenir votre belle-fille. Demain, la fortune va me parler à mon tour. Corvinus avait, lui aussi, son heure critique. Pourquoi Fabiola n'aurait-elle pas la sienne? Pendant cette conversation entre le père et le fils, une conférence avait lieu entre Fulvius et son noble oncle. Ce dernier, rentrant tard, trouva son neveu assis seul et paraissant sombre. Il lui parla en ces termes. « Eh bien, Fulvius, est-elle arrêtée ?»« Elle est captive autant que les barreaux et les murailles peuvent la retenir prisonnière. Mais son esprit est libre et indépendant autant que jamais. »« Peu importe, l'acier tranchant aura raison de son esprit indépendant. » Sa condamnation est-elle certaine et les conséquences paraissent-elles sûres? S'il n'arrive rien que de prévu, la condamnation est certaine. Quant aux conséquences, nous pouvons avoir encore à supporter un caprice de l'empereur. Mais, je l'avoue, je ressens de la peine et un vif remords d'immoler une si jeune vie à un résultat incertain. Allons, Fulvius, dit le vieillard, impassible et froid comme un roc de granit, environné du sombre brouillard du matin. Pas de sensiblerie à ce sujet. Vous souvenez-vous quel est le jour qui vient demain ?
Oui, c'est le 12e jour avant les calendes de février.
C'est encore pour vous un jour critique. C'est à pareil jour que, pour gagner d'autres richesses, vous avez commis...
Silence ! Interrompit Fulvius en tremblant. Pourquoi me rappelez-vous toujours ce que je voudrais tant oublier ?
Vous désireriez vous oublier vous-même, et cela ne doit pas être. Je dois vous ôter cette habitude de vouloir parfois vous laisser guider par la conscience, la vertu ou même par l'honneur. C'est vraiment une dérision d'affecter la compassion pour la vie d'une personne qui se place entre vous et la fortune, après votre conduite envers une autre personne. Fulvius mordait ses lèvres avec rage et couvrait de ses mains sa figure rouge de honte. Eurotas le rappela à lui en lui disant « C'est donc demain le second jour critique et décisif pour vous. Pesons avec calme ces diverses conséquences. Vous irez trouver le prince et vous lui demanderez la part qui vous revient sur les biens confisqués. Supposons qu'il vous l'accorde. Je vendrai les biens le plus vite possible, je paierai mes dettes et je me retirerai dans un pays éloigné où mon nom n'a jamais été prononcé. Supposons maintenant que votre demande soit repoussée. C'est impossible, s'écria Fulvius, que cette hypothèse torturait. C'est mon droit, je l'ai péniblement gagné, ce bien, et on ne peut me le refuser.
Doucement, mon jeune ami, discutons la chose froidement. Souvenez-vous du proverbe « De l'étrier à la selle, on peut faire des chutes nombreuses. » Supposons donc que vos droits soient niés.
Alors, je suis un homme ruiné. Je n'ai pas d'autre moyen de relever ici ma fortune. Il faut que je m'enfuie.
Bien, que devez-vous à l'arcade de Janus ?
Environ 200 sesterces, tant en emprunt principal qu'en intérêt à 50%, que demande ce coquin de juif Éphraïm.
Quelle garantie a-t-il ?
Mon espoir certain d'obtenir les biens d'Agnès.
Et si votre espoir est déçu, pensez-vous qu'il vous laissera fuir ?
Non, certainement s'il connaît mon projet. Mais il faut, dès ce moment, faire les préparatifs de notre départ avec le plus grand secret.
Laissez-moi ce soin, Fulvius. Vous voyez que l'issue de votre demande de demain, ou plutôt d'aujourd'hui, car l'heure approche, est bien incertaine. La vie ou la mort en dépendent. C'est le grand jour de votre existence. Courage, ou plutôt résolution inflexible, pour remplir fermement votre destinée.